Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage au cœur de 7 jours d'actualité avec bien sûr les reportages de la rédaction. Nos destinations seront nombreuses, comme d'habitude, États-Unis, Biélorussie, Australie, Sénégal, Guinée par exemple. Notre invitée cette semaine est Sophie Mazet, elle est professeure et depuis des années elle se bat pour remettre l'esprit critique à l'honneur. Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez retrouver sur notre site www.rfi.fr. Avant d'écouter Sophie Mazet, partons pour la Grèce. Plus de 12 000 migrants sur l'île de Lesbos se sont retrouvés mercredi sans abri après un énorme incendie qui a ravagé au petit matin Moria, le plus grand camp de réfugiés de Grèce et d'Europe d'ailleurs, où ils s'entassaient. Reportage quelques heures après l'extinction de l'incendie, signé Joël Brunner.
Du camp de Moria proprement dit et de la jungle de tentes qui l'entourait, il ne reste pratiquement plus rien que des carcasses calcinées qui baignent dans une odeur de bois brûlé. Derrière les portes de ce qui a été le plus grand camp d'Europe, un impressionnant silence règne. Un silence qui n'est interrompu que par le grincement de la tôle boursouflée par les incendies de ce qui était il y a encore quelques jours des conteneurs d'habitation. Dans cette atmosphère comparable à celle d'un cimetière, les seules voix humaines qui émergent parfois sont celles de policiers chassant les rares réfugiés qui se promènent dans les décombres, en indiquant dans un anglais approximatif que Moria est fermé, troublant ainsi l'espèce d'étrange recueillement ambiant. L'immense majorité des 12 700 demandeurs d'asile qui étaient regroupés là, dans ce camp aux conditions de vie insalubres, se retrouvent à présent éparpillés tout au long de la grande route qui menait au camp. Des enfants, des familles ou des amis d'infortune à la recherche du moindre coin d'ombre, sous un bout de bâche, un coin de mur ou à l'abri des oliviers qui peuplent les collines alentours. Des personnes démunies qui manquent souvent d'à peu près tout, à commencer par l'eau et la nourriture. Le peu de leurs affaires qui n'a pas brûlé, elles les traînent sur cette route qui ne mène nulle part en raison des barrages policiers. Dans des poubelles, des fauteuils de fortune ou encore des cajots, beaucoup tirent en effet leur vie derrière eux, sans savoir vraiment où ils vont.
C'est une autre image de la semaine, image de flammes encore et toujours en Californie, cette fois en proie depuis des semaines à des gigantesques incendies de forêt. Plus de 600 000 hectares ont déjà été détruits et cette semaine, San Francisco a été plongé dans une atmosphère de films de science-fiction comme Blade Runner par exemple, un film de 1982 que je vous conseille d'ailleurs. Correspondance d'Éric De Salve.
C'est un peu comme si le soleil ne s'était pas levé à San Francisco, la nuit en plein jour. Posté sur une colline, Michael observe incrédule cet immense nuage de fumée ocre qui plonge la ville californienne dans l'obscurité.
C'est apocalyptique. On se croirait dans un film de Ridley Scott. Il est 13h30 et tout le monde roule avec les phares, c'est complètement fou.
Un peu plus loin, Andrea, assise sur un banc, regarde les cendres tomber du ciel avec anxiété. À son réveil ce matin, cette puéricultrice a d'abord cru qu'elle se trompait d'heure.
Je croyais qu'il était 5h du matin et pas 7h. Je n'arrivais pas à le croire, c'est déprimant. Ces années de sécheresse, c'est le réchauffement climatique qui nous rattrape. Et ça ne va faire qu'empirer. J'habite ici depuis longtemps et chaque année, c'est pire.
Entre les feux et le Covid-19, ça commence à faire beaucoup de raisons de ne pas sortir. Commente un autre habitant en prenant une photo du ciel menaçant de San Francisco, toujours confiné depuis mars. Dans un message vidéo, la maire London Breed appelle les habitants à ne pas paniquer. Les feux sont à plus de 150 km où la situation est beaucoup plus grave. Des milliers d'évacuations et des centaines de maisons détruites.
Et quelques 500 000 personnes ont été évacuées dans l'Oregon. Les pompiers continuent de lutter contre plus d'une centaine d'incendies dans la région qui dévaste depuis des jours la côte ouest des États-Unis, donc où ils ont causé la mort d'au moins 8 personnes. Notez aussi qu'un important incendie s'est déclaré jeudi dans un entrepôt du port de Beyrouth, y touchant une aide humanitaire vitale et ravivant évidemment la colère des Libanais encore sous le choc de l'explosion qui a meurtri leur capitale il y a quelques semaines. À ce sujet d'ailleurs, au sujet du traumatisme des Libanais après l'explosion du mois d'août, je vous recommande l'émission Orient Hebdo d'Éric Bataillon ce soir à 19h40, temps universel, qui traite de cette question.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes donc en compagnie de Sophie Mazet, qui est professeure et qui vient d'écrire Autodéfense intellectuelle, le retour, parce qu'il y a eu déjà un premier tome, Lexique pour esprit critique, un livre publié chez Robert Laffont, qui va être le fil rouge de notre émission. Mais d'abord un mot sur San Francisco, parce que vous avez vu les images très spectaculaires, et vous connaissez bien San Francisco.
Oui, j'ai vu, effectivement, et ça fait 10 ans que je vais en Californie à peu près tous les ans, dès que je peux. Alors ça me rend très triste, parce que comme disait la personne qui était interviewée, effectivement, ça va pas aller en s'arrangeant. Et ça fait des années que je le vois en faisant la route entre Los Angeles et San Francisco, tout est brûlé. Et ouais, ça m'attriste beaucoup parce que c'est vraiment de pire en pire.
Alors, vous êtes professeur agrégé d'anglais au lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen, dans la région parisienne, et votre combat est un combat noble. Remettre à l'honneur, donc, cet esprit critique. Nous avons déjà un auditeur qui nous a écrit et qui se demande, je pense que c'est il y met de l'ironie dans cette question, l'esprit critique est-il la chose la mieux partagée dans le monde ? Se demande-t-il. La réponse est dans la question.
Alors oui, bon, il est complètement ironique, évidemment. C'est intéressant parce que justement, on est tous persuadés qu'on a énormément d'esprit critique et c'est extrêmement compliqué d'admettre qu'on n'est pas aussi bon qu'on le pense. Ça a été éprouvé par des tests de psychologie sociale qu'on a tendance toujours à se surestimer dans à peu près tous les domaines. C'est-à-dire, par exemple, des tests assez rigolos qui ont été faits sur quand vous faites une location de vacances, vous allez à la montagne, en fait, vous avez toujours l'impression que quand vous partez, c'est beaucoup plus propre parce que vous êtes meilleur en nettoyage que les autres. Et l'esprit critique, finalement, ça fonctionne un petit peu pareil, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être meilleur, d'être plus éclairé, d'être pas comme tous les moutons, comme certains disent dans des milieux conspirationnistes un peu, de pas suivre les autres, de vous informer par vous-même. Donc on a toujours une impression d'indépendance d'esprit et faut commencer par l'humilité en fait.
Mais qu'est-ce qui a suscité en vous ce besoin de lutter en faveur de cet esprit critique et de publier il y a quoi, 2 ans, 3 ans?
5 ans.
5 ans déjà, ce manuel d'autodéfense intellectuelle.
Bah justement, ce sont mes élèves en fait qui m'ont donné l'idée parce qu'on discute beaucoup. Et puis en fait, je me rendais compte que beaucoup avait une forme d'esprit critique, mais qui savait pas tout à fait de quoi y parler, qui maîtrisait pas forcément le sens des termes, mais tout en ayant une volonté quand même d'intervenir dans le débat, alors peut-être pas dans le débat public, mais en tout cas dans le débat entre eux, dans le débat en classe. Donc ils avaient une vraie volonté de, finalement, d'apprendre à penser. Alors moi, bon, qui suis-je pour leur dire comment penser? J'ai essayé de me documenter, de me former justement pour travailler sur les biais de raisonnement, notamment ce qui fait qu'on raisonne de travers, tous, les élèves, tout le monde en fait. Donc j'ai voulu travailler là-dessus pour ensuite créer mon cours d'autodéfense intellectuelle d'après l'expression de Noam Chomsky. Je lui ai demandé la permission avant de faire le cours, il a dit oui. Et j'ai voulu travailler là-dessus avec des élèves qui étaient volontaires, donc qui venaient, je leur avais dit, vous venez à ce cours, si ça vous plaît pas, vous arrêtez de venir. Puis en fait, ils continuaient de venir, et ça s'arrêtait pas, et donc j'ai continué, puis visiblement, ils sont contents, ils continuent de venir tous les ans.
Il n'y a pas que les élèves, d'ailleurs, il y a aussi les parents d'élèves qui sont intéressés.
Alors, une année, je les avais invités, ouais. Oui, effectivement. Bon, après, on n'a pas reconduit, parce que c'est quand même assez compliqué, puis il n'y a pas toujours assez de place, et puis pour moi, c'était compliqué en termes d'intendance, en fait, comment je vais gérer ça. Mais oui, il y a une année, il y avait les parents qui étaient venus.
L'esprit critique, Sophie Mazet, suppose déjà qu'on ait quelques connaissances, non ?
Alors, ça suppose soit déjà quelques connaissances, soit la conscience qu'on n'a pas ces connaissances-là. En tout cas, ce que ça suppose, je dirais, avant tout, c'est une forme d'humilité. C'est la volonté qu'on vienne briser vos certitudes aussi. C'est-à-dire, du coup, relativiser sur nos propres certitudes. Hein. Il existe très très peu de vérité, en fait.
Je sais que je ne sais rien.
C'est un peu ça, l'idée de départ, oui. Ou alors, c'est un peu être entre douter de tout, ce qui est une sorte de scepticisme, en fait, totalement dogmatique, finalement, et tout croire. Donc, on est entre les deux, parce que l'un et l'autre, en fait, c'est finalement une paresse de la pensée. L'esprit critique, c'est au contraire, c'est un dynamisme de la pensée et une volonté, une acceptation de voir sa pensée remise en question.
À ne pas confondre Sophie Mazet avec la dérision, parce que souvent, il y a confusion. Esprit critique, on critique, ou on fait preuve de dérision.
L'esprit critique, on construit quelque chose, alors que la dérision... Alors, la dérision ne va pas forcément à l'encontre de l'esprit critique. Hein. On peut penser de façon critique, tout à fait.
Mais souvent, les deux sont dissociés. Hein.
Souvent, ouais. Après, on peut... Voilà, il ne faut pas confondre l'un et l'autre, effectivement.
Alors, cette fois-ci, vous avez voulu revenir sur un certain nombre de mots qui sont des mots brûlants, allais-je dire. Des mots comme décolonial, antiracisme, sur lesquels nous allons revenir, évidemment, populisme, démocrature. Pour quelle raison ? Pour être plus précise encore ?
Oui, alors, bon, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'introduction de mon livre, en fait. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, à la fois parce que les choses ont changé, le contexte a changé, et parce qu'il y a certaines choses qui ne changent jamais. C'est-à-dire que concrètement, ben, je recevais beaucoup de courriers, dès que je vais dans une émission, quoi que ce soit, je reçois des courriers d'anti-vaccins et de complotistes qui pensent que le 11 septembre est un vaste complot. Donc, ils sont toujours là.
Ça continue. Oh,
oui, ça continue. Ouais. Là, les derniers, ils m'ont envoyé carrément des notices de vaccins. Donc, il y a un anti-vaccin qui allait acheter des vaccins pour m'envoyer 4 notices de vaccins pour m'expliquer à quel point les vaccins, ça marchait pas. Donc j'ai gardé d'ailleurs, j'ai gardé précieusement, mais du coup ça ne s'arrête pas, donc ça change jamais, et puis à la fois il y a certains sujets, donc qui sont du coup des sujets plus politiques que ce que j'abordais avant, qui ont émergé ou qui se sont vraiment dessinés dans le domaine du militantisme notamment et de l'action politique, des sujets qui sont compliqués à évoquer. Parce qu'on part toujours du principe, en tout cas quand on est militant, que certaines choses vont de soi. L'utilisation de certains mots va de soi, l'acceptation du sens de certains mots et le fait d'endosser, de reprendre à son compte certains mots comme étant à nous, ça semble aller de soi pour certains, et en fait j'ai voulu montrer que ça allait pas de soi du tout.
Oui, parce que l'acceptation d'un mot, c'est quelque chose d'important. Moi, je peux donner un sens à un mot et vous un autre.
Tout à fait. Et à partir du moment où je reprends à mon compte tel mot, il y avait une autre question, c'était finalement avec qui, enfin quelle pensée je charrie quand j'utilise tel mot. Et des fois, le problème, c'est qu'on charrie des trucs assez nauséabonds. Je m'en suis rendu compte. Enfin, je le savais déjà un petit peu. C'est pour ça que j'ai écrit le livre aussi.
Et parfois, de bonne foi, presque.
Mais de toute bonne foi. Et c'est pour ça aussi. Enfin, ma démarche s'adresse pas spécialement aux idées immondes qui sont charriées par les termes, en fait. Elle s'adresse aux personnes qui voudraient utiliser ces termes et qui voudraient savoir ce qu'ils disent et ce qu'ils impliquent quand ils utilisent tel ou tel terme.
Alors, nous allons prendre quelques exemples au fil de l'émission.
Sept jours dans le monde.
Et partons maintenant, Sophie Mazet, pour la Biélorussie, avec de nouvelles manifestations. Les Biélorusses ont de nouveau répondu en masse dimanche dernier à l'appel de l'opposition pour défiler dans les rues de Minsk contre le président Alexandre Loukachenko. Malgré l'impressionnant déploiement de forces de l'ordre et de l'armée dans la capitale, l'avocat Maxime Znak, l'un des deux derniers membres du conseil de coordination de l'opposition biélorusse, encore en liberté, a été détenu mercredi matin par des hommes masqués, et les autorités biélorusses ont tenté de faire traverser de force la frontière ukrainienne à l'opposante Maria Kolesnikova, qui a refusé et déchiré son passeport avant d'être arrêtée. Correspondance régionale de Sébastien Gobert à Kiev.
Anton Rodnenkov et Ivan Kratsov ont été kidnappés à Minsk lundi, le même jour que Maria Kolesnikova, et conduits à la frontière ukrainienne. Tous trois membres du conseil de coordination de l'opposition biélorusse, ils reçoivent là-bas une voiture, leur passeport et des billets d'avion pour plusieurs destinations. Objectif, que ses opposants partent très loin de Minsk. Maria Kolesnikova proteste. Dans la zone neutre entre les postes biélorusses et ukrainiens, elle déchire son passeport, s'extirpe du véhicule et retourne bravement vers la Biélorussie. À en croire le récit d'Ivan Kravtsov, cet acte héroïque n'est pas surprenant de la part de Maria Kolesnikova. Elle a prouvé pendant des mois sa détermination à abattre le régime d'Alexander Loukachenko. Ses deux camarades ne comptent pas non plus abandonner la lutte. Ils ne prévoient pas de demander d'asile politique en Ukraine et souhaitent rentrer, malgré la répression brutale qui s'est encore abattue sur une marche pacifique ce mardi soir à Minsk. Le conseil de coordination de l'opposition y déplore d'ailleurs l'enlèvement d'une autre militante.
La Russie, maintenant, à propos de l'empoisonnement d'Alexei Navalny en Russie, donc cette fois, l'ONU demande une enquête indépendante à Genève. Jérémy Lanche.
Le Novitchok n'est pas n'importe quel poison, rappelle la haut-commissaire Michel Bachelet. S'en procurer n'a rien d'évident. Un proche d'Alexei Navalny estime qu'utiliser cet agent neurotoxique revient d'ailleurs à laisser un autographe sur la scène du crime, celui du Kremlin. Mais la haut-commissaire, par la voix de son porte-parole Rupert Colville, ne va pas jusque-là.
Avant d'être empoisonné, Alexei Navalny a été régulièrement harcelé, arrêté et agressé par les autorités russes ou par des inconnus. L'État aurait clairement dû le protéger, même s'il était une épine dans le pied du gouvernement. Comme le dit la haut-commissaire, on ne peut tout simplement pas nier le fait qu'Alexei Navalny ait été empoisonné, comme on ne peut pas nier aussi que cette tentative d'assassinat doit faire l'objet d'une sérieuse enquête indépendante, impartiale et transparente.
into this assassination attempt.
Dans sa déclaration, la haut-commissaire se dit profondément préoccupée par le nombre de citoyens russes qui ont été ou ont failli être assassinés ces dernières années, notamment Sergei Skripal, Alexandre Litvinenko, Boris Nemtsov et Anna Politkovskaya. L'échec bien souvent de la justice russe à condamner les coupables de ces crimes est difficilement justifiable, déplore encore Michel Bachelet.
Sophie Mazet, puisque nous en sommes aux restrictions des libertés, parlons maintenant de la presse, des atteintes à la liberté de la presse, et parlons du sort des journalistes en Chine. Les correspondants de médias australiens ont été priés de partir de gré ou de force. Ils font les frais de mauvaises relations entre l'Australie et la Chine, à Sydney, Grégory Pless.
Bill Birtles était en train de fêter son départ avec des amis quand la semaine dernière, 7 agents des services de renseignement chinois ont débarqué chez lui à minuit passé. Correspondant pour la télévision publique ABC, il avait reçu quelques jours plus tôt un appel de l'ambassade australienne lui conseillant de quitter la Chine au plus vite. Idem pour son confrère Mike Smith, basé lui à Shanghai et correspondant d'un quotidien économique. Avant d'être arrêtés, les deux journalistes sont allés se réfugier à l'ambassade pour l'un, au consulat pour l'autre, avant de pouvoir s'envoler hier soir pour Sydney. Voici ce qu'a déclaré Bill Birtles en sortant de l'avion.
C'est très décevant de devoir partir dans ces circonstances, mais c'est aussi un soulagement d'être de retour dans un pays où s'applique l'état de droit.
Depuis maintenant des mois, les motifs de brouille se multiplient entre la Chine et l'Australie. Accusations d'espionnage, mesures de rétorsion commerciale, les relations entre Pékin et Canberra n'ont jamais été aussi tendues. Le mois dernier, une autre journaliste australienne, Cheng Lei, n'a elle pas eu autant de chance. Elle est depuis assignée à résidence à Pékin, sans possibilité de parler à un avocat ou même à sa famille.
Avant de vous écouter à nouveau, Sophie Mazet, j'aimerais que nous parlions de démocrature, un des mots que vous développez dans ce livre. Partons pour la Grande-Bretagne à Londres, où les relations se tendent sérieusement entre le gouvernement et l'Union européenne, avant l'entrée en vigueur de l'accord de sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, précisément. Correspondance de Muriel Delcroix.
Après des mois d'enlisement sur le front du Brexit, le gouvernement britannique s'impatiente et a soudain décidé d'aller à l'offensive en prenant soin de le faire savoir à son électorat. Tandis que son négociateur en chef David Frost est sorti de sa réserve pour prévenir que Londres ne céderait rien, Boris Johnson s'est dit lui prêt à claquer la porte des négociations dès le 15 octobre et a tout simplement passé à autre chose, assurant qu'un no deal serait même une bonne issue. Et pour être sûr d'avoir désormais toute l'attention des Européens, son gouvernement a confirmé qu'il allait présenter une nouvelle loi mercredi qui pourrait partiellement remettre en cause le traité de divorce avec l'Union Européenne, pourtant signé en janvier. En ligne de mire, les dispositions spécifiques en Irlande du Nord, censées éviter le retour à une frontière physique avec la République d'Irlande. Downing Street affirme avoir en tête des modifications limitées pour clarifier ce traité, mais l'annonce a été condamnée par Dublin et Belfast et a provoqué la consternation à Bruxelles. Les Européens ont ainsi rappelé à Londres ses engagements et prévenu que toute tentative de réécrire le passé pourrait compromettre toute future relation. Coup de bluff ou pas, le geste d'humeur britannique rappelle que tout reste à jouer et que les compromis seront douloureux de chaque côté de la Manche.
RFI, une semaine d'actualité. Nous sommes cette semaine en compagnie de Sophie Mazet qui a écrit donc Autodéfense intellectuelle, Le retour, Lexique pour esprit critique. Un livre qu'il faut lire vraiment par les temps qui courent, publié chez Robert Laffont. Vous y développez, Sophie Mazet, dans ce livre, au moins deux mots qui sont dans l'actualité, il y en a beaucoup plus. Le populisme et la démocrature, je ne sais pas pourquoi, mais Boris Johnson me fait penser à populisme.
Je ne sais pas pourquoi.
Il y a une définition précise du populisme.
C'est très compliqué en fait. C'est très très compliqué parce que justement j'ai trouvé des définitions où la personne qui définissait en fait était partiale dans ce qu'elle définissait. Donc c'est très très dur. Je trouve que les propos de Pierre Rosanvallon sont assez pertinents sur la question. Mais finalement populisme, en fait, je suis partie, quand j'ai écrit ce livre, je suis partie de la façon dont on utilise ces mots dans le débat public sur les réseaux sociaux, la façon dont les gens les lancent. En fait, et pas forcément la définition elle-même. C'est pour ça que je suis remontée à la définition. Je suis pas partie de la définition elle-même. Et du coup, populisme, en fait, c'est souvent lancé comme une accusation. on est toujours un peu le populiste de l'autre finalement, ou alors comme au contraire une sorte de badge de fierté. Moi je suis populiste parce que j'écoute le peuple, et du coup finalement ça crée toujours, tout repose toujours sur le populisme entre eux et nous. C'est-à-dire qu'il y a nous qui sommes les victimes du système, nous qui sommes désavantagés, etc. On va combattre eux qui sont les autres, tous ceux qui gagnent dans le système. Et alors c'est intéressant parce que du coup à peu près tout le monde peut se dire populiste, peut dire finalement les gentils c'est nous, puis les méchants c'est eux, quoi. Donc ça revient un petit peu à ça.
C'est ça toute la difficulté de ce mot, c'est-à-dire qu'il est totalement, là aussi c'est un exemple de mot qui n'a pas le même sens selon les personnes qui le prononcent.
C'est très très difficile.
Et en plus c'est un mot qui s'est dévalorisé parce qu'il n'avait pas le sens au début qu'il a aujourd'hui.
Tout à fait, ouais. Il a changé de sens au fil des années, et puis maintenant c'est vrai qu'on le retrouve lancé comme une insulte en fait. Moi j'ai voulu me poser la question de finalement, quand on accuse quelqu'un de populisme, est-ce que c'est qu'on dit que cette personne est démagogue ? Est-ce que c'est la même chose que démagogue ? Ou est-ce que c'est pas la même chose ? Est-ce que le populisme, c'est une posture ? Est-ce que c'est une rhétorique ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Donc j'ai voulu chercher un petit peu parce que je trouvais que c'était employé un peu à toutes les sauces.
Parce qu'au départ, populisme était lié à populaire, en fait.
Oui, tout à fait.
Les deux voulaient dire un peu la même chose.
Oui, voilà. Pour en faveur du peuple en fait. Et alors maintenant c'est assez intéressant parce que on peut tous se dire, tous les politiciens peuvent se dire en faveur du peuple, hein. C'est quand même assez génial finalement.
Alors on a parlé Sophie Mazet du Bélarus, de la Biélorussie, l'ex-Biélorussie, d'Alexandre Loukachenko et de Vladimir Poutine. Pour la Russie, eux, je sais pas pourquoi, me font penser au mot démocrature.
Toujours, je sais pas pourquoi, vraiment. Non, vous faites des associations d'idées
étranges,
originales.
Démocrature, là aussi, le mot est apparu assez récemment.
Oui, il est apparu assez récemment, et alors j'ai recherché justement, je suis remontée un petit peu, j'ai fait un peu les bas-fonds de Twitter.
Vous avez pris des risques.
Oui, mais j'ai du temps à perdre, je vais aller sur Twitter. Et en fait, c'était intéressant parce que le terme démocrature, c'était toujours utilisé soit pour décrire des gouvernements qui sont pas le nôtre, ailleurs, voilà, il y a des démocratures dans le monde, il y a la Russie, etc. On parlait de Brésil aussi, on parlait de tout un tas de pays. Et les seules personnes qui l'utilisaient pour parler de la France, en fait, c'était souvent des identitaires ou des gens d'extrême droite qui utilisaient ce terme-là, ou au contraire des gens du côté extrême gauche, mais qui sont pas, il y a pas de miroir entre l'extrême droite et l'extrême gauche pour moi, pas vraiment, mais des gens en tout cas qui étaient dans une opposition au gouvernement actuel français, au système, c'est-à-dire aux institutions en fait. Et je me suis demandé si ces gens-là, si ces gens-là avaient entièrement tort, finalement. J'ai un peu pris le chemin inverse.
Vous êtes l'avocate du diable.
J'ai essayé, oui, pourquoi pas, pour voir, en fait, si... moi, ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, la séparation des pouvoirs, et est-ce que, finalement, on a une séparation des pouvoirs dans la loi, mais est-ce qu'on n'a pas une ingérence, parfois, d'un pouvoir sur l'autre, notamment, je pense, à l'exécutif sur le législatif, et j'ai pris comme exemple l'affaire Benalla, où l'exécutif, finalement, a tenté de discréditer ou de critiquer fortement le rapport du Sénat, qui expliquait qu'il y avait quand même eu un mensonge d'État, en disant, c'est la séparation des pouvoirs, le Sénat n'a pas à s'exprimer là-dessus. Alors que précisément, c'est le contraire. Si c'est la séparation des pouvoirs, le Sénat a tout à fait à s'exprimer là-dessus. Et donc là, je me suis dit, on peut peut-être pas parler de démocrature, mais en tout cas, on a quelque chose qui est très, très problématique.
Oui, parce que dans le mot démocrature, Sophie Mazet, il y a cette notion de liberté.
Oui, voilà, il y a l'idée d'une liberté de façade, plutôt, en fait. C'est-à-dire qu'on a des institutions démocratiques, mais finalement, ce sont des institutions de façade. Et je trouve que c'est une vraie question qu'il faut se poser en France de nos jours, en fait, même si ça semble excessif, j'en ai tout à fait conscience. Je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, je vais passer pour une extrémiste.
Mais j'avais l'habitude.
Oui, j'ai plus beaucoup d'amis. Mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question de l'institution qui outrepasse ses droits, la justice. Il faut se poser ces questions-là. Il faut continuer à se les poser.
Quels ont été les critères de sélection des mots que vous traitez dans ce livre ? Parce qu'il y en a beaucoup.
Il y a beaucoup de mots, oui.
Définis dans des chapitres différents, politique, un chapitre qui s'intitule « Les amis », enfin une partie qui s'intitule « Les amis de... » Mes amis sont-ils mes amis ? Normalement, oui. Un chapitre sur le féminisme, etc., etc. Vous avez pris l'air du temps, non ?
J'ai essayé de capter l'air du temps. Alors, l'air du temps, c'est toujours biaisé. C'est-à-dire que j'ai fait l'air du temps en fonction de mes propres centres d'intérêt et de ceux de mes étudiants et élèves aussi, parce que si c'est les mots d'aujourd'hui, en fait, ce sont les jeunes d'aujourd'hui, les personnes d'aujourd'hui qui les utilisent. Donc, moi, j'étais intéressée parce que j'entendais, ce que je glanais plus ou moins lors de mes explorations des bas-fonds de Twitter et de mes discussions. Donc c'est des mots qu'on voit passer aussi beaucoup dans les médias, c'est-à-dire que j'ai pris des choses quand même qui se débattent dans les médias, qui sont pas forcément le fait d'une petite poignée d'activistes, qui l'étaient peut-être il y a quelques années mais qui se sont répandues. Et donc comme intersectionnalité par exemple, qui a pris beaucoup d'ampleur, et en fait, est-ce que c'est toujours le mot d'origine? Ben pas forcément.
Tiens, puisque vous venez de le prononcer, expliquez-nous en quelques mots ce que
ben, l'intersectionnalité.
Parce que ça c'est un mot qui monte, si j'ose dire.
Ouais, beaucoup de personnes le résument par le périphrase qui serait la convergence des luttes. Ça a une origine américaine en fait. Alors la lettre, c'est assez récent, le mot est assez récent, mais on peut remonter à vraiment il y a beaucoup plus longtemps que les années 90. C'était bien avant, lorsqu'on avait des groupes de femmes noires en fait. Et donc la intersection finalement, c'était le croisement de deux discriminations, le fait d'être femme et le fait d'être noire. Et Kimberlé Crenshaw, qui a donc créé le terme en fait, explique qu'elle enquêtait dans des entreprises où des femmes noires étaient victimes de discrimination et elles n'arrivaient pas à se faire entendre en justice parce qu'elles étaient femmes noires. Et donc on leur disait oui, mais vous êtes femme, vous ne pouvez pas représenter représentatif des noirs en fait, puisque vous êtes des femmes, vous n'êtes pas des hommes, donc vous ne représentez pas les noirs. Et quand elles portaient plainte pour discrimination sexiste, on leur disait oui, mais vous êtes des femmes noires, vous n'êtes donc pas représentatif de toutes les femmes. Et elles se disaient ben en fait on est discriminées à un double titre, ça ne fait pas que s'ajouter en fait, c'est-à-dire que ça se multiplie. Mais c'était déjà le cas en fait, vous avez déjà des mouvements qui se sont organisés dès les années 60 et même avant aux États-Unis en fait, justement, où l'idée était d'inclure tout le monde dans cette lutte. Et en fait maintenant ça a été pas mal dévoyé, ce terme-là, donc j'ai voulu voir un peu ce qu'il en était.
Jour en France.
L'actualité française, Sophie Mazet, la poursuite du procès des attentats de janvier 2015 à Paris, avec lundi une journée particulièrement éprouvante, marquée par le récit des faits par le commissaire qui a dirigé l'enquête, Laura Martel.
De l'intervention de l'enquêteur, ce sont les images qui restent. Les photos de la rédaction juste après la tuerie, le sang et les corps entremêlés. Cette vidéo muette du hall du journal aussi, dans laquelle le pire se déroule surtout hors champ. 1 minute 49 à regarder Saïd Kouachi faire le guet, bientôt entouré d'une épaisse fumée, seul signe du massacre en cours. D'autres images silencieuses, Chérif Kouachi semblant hurler sur Sigolène Vincent, l'effroi et la panique de la chroniqueuse quand elle se relève et regarde autour d'elle. Puis dans la dernière vidéo, le son, les tirs de Kalachnikov qui claquent, la douleur d'Ahmed Merabet, le policier blessé, sa tentative de plaider pour sa vie et le coup de feu qui l'abat. Ce sont ces images, ces sons que l'on retient. Mais le commissaire a aussi livré des éléments intéressants de l'enquête, une enquête colossale de 20 000 feuillets, a-t-il précisé. Et notamment cet ADN retrouvé sur la plaque d'immatriculation de la voiture des Kouachi, puis sur une arme et un mousqueton. Un ADN encore non identifié à ce jour. À l'époque, il y avait beaucoup de fichiers S de partant pour la Syrie. S'ils n'étaient pas déjà délinquants de droit commun, on n'avait pas forcément leur empreinte génétique, explique alors l'enquêteur, avant de citer en exemple le cas de Mehdi Belloussine, accusé en fuite dans ce dossier. Un ADN inconnu qui risque de refaire parler.
La France et l'épidémie de Covid-19, après les annonces d'Emmanuel Macron hier, de nouvelles mesures, donc une épidémie qui décidément prend le pas sur le reste, Anthony Lattier.
C'est le syndrome de l'élastique, explique un conseiller ministériel. À chaque fois que tu penses que le virus s'éloigne, il te rattrape. Illustration cette semaine, le déplacement sur l'égalité des chances du président Emmanuel Macron a bien vite été éclipsé par l'isolement du Premier ministre, la tenue du Conseil des ministres en visioconférence et celle ce vendredi du Conseil de défense. Après un printemps dédié à l'urgence sanitaire, le gouvernement français aimerait pourtant en cette rentrée reprendre la main pour faire avancer ses chantiers, relance économique, lutte contre l'insécurité et le séparatisme et bientôt reprise de la réforme des retraites. Mais comment continuer à réformer quand on est sans cesse rattrapé ou interrompu par la gestion de la crise? L'équation est compliquée et dans les allées du pouvoir, on s'arrache les cheveux. En termes de communication, c'est très difficile, reconnaît un ministre en privé. Nous ne voulons pas donner l'impression que la France est en mode pause. Il faut que nous arrivions à mener de front la lutte contre le virus et tous les autres sujets. C'est le message qu'a d'ailleurs fait passer le président de la République mercredi à son gouvernement.
Sophie Mazet, parmi les mots que vous analysez dans ce livre, autodéfense intellectuelle, je suis désolé, mais nous allons être obligés de reparler du mot vaccin, et notamment des anti-vaccins. Et vous citez un extrait de quelques lignes du journal Science et Avenir, du magazine Science et Avenir, publié en juin 19, qui disait ceci. Un Français sur trois ne croit pas que les vaccins soient sûrs, selon une enquête mondiale publiée mercredi 19 juin 2019 et qui fait de la France le pays le plus sceptique des vaccins parmi les 144 étudiés.
Oui, on est
quel record.
Ouais, c'est un record. Alors, je pense qu'en plus avec le vaccin, l'idée d'un potentiel vaccin sur le Covid, c'est encore pire. Oui. Donc, on n'est pas très très bons élèves. Alors, j'ai essayé de regarder pourquoi, en fait, pourquoi. Est-ce que c'était dû à l'approche du gouvernement en matière de vaccins, le fait que les vaccins, qu'un certain nombre de vaccins soient obligatoires. J'ai regardé comment ça se passait dans d'autres pays. Effectivement, il y a d'autres façons de faire dans d'autres pays. Alors, je dis pas que l'approche coercitive est pas la bonne, en fait. Moi, j'en sais rien. Je suis pas forcément là pour prendre parti, mais en tout cas, j'ai essayé de regarder s'il y avait d'autres options. Et surtout, il y a une étude australienne qui était très intéressante parce que elle a cherché pourquoi les anti-vaccins étaient anti-vaccins. Et elle a demandé aux gens, en fait, ceux qui étaient anti-vaccins, ceux qui étaient pro-vaccins, quelles étaient les valeurs auxquelles ils accordaient le plus d'importance. Et les anti-vaccins accordent énormément d'importance à la liberté. Donc voilà, ils placent la liberté au-dessus de tout, ce qui n'est pas forcément étonnant quand on écoute le discours anti-vaccin. Et du coup, on s'est dit, comment on fait avec ces personnes en prenant en compte leurs valeurs, en prenant en compte qui ils sont pour les faire changer d'avis. Et puis, on s'est rendu compte que des campagnes qui fonctionnaient, c'était des campagnes qui mettaient en avant la liberté, en fait. C'est-à-dire, vous vaccinez, vous aurez la liberté de vivre sans maladie. Vous aurez la liberté de ne pas tomber malade, en fait. Donc en fait, en tournant les choses de cette façon-là, les gens entendaient, parce que ça n'allait pas à l'encontre de leurs propres valeurs.
Oui, parce qu'au nom de la liberté, il y en a qui refusent de porter le masque aussi. Aujourd'hui.
Tout à fait, c'est encore autre chose. Donc là, on pourrait dire, c'est aussi la liberté de ne pas finir en réanimation. Oui, donc il y aurait encore peut-être des choses à faire. Alors je ne sais pas, en Australie, ça a plutôt bien marché, ce qu'ils ont fait.
Il y a aussi l'argument qui prévaut chez ceux qui sont contre les vaccins, en disant, oui, mais il peut y avoir des effets secondaires.
Tout à fait. Importants. Alors là, est-ce que les
démarches... C'est toute la crainte des futurs vaccins sur le Covid.
Oui, exactement, oui. Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, après, j'ai pas...
D'ailleurs, il y a un laboratoire qui a cessé ses recherches cette semaine parce que ce laboratoire a détecté parmi ses patients qu'il y avait une maladie non identifiée.
Ouais. Bah, ça, c'est normal. Après, c'est la démarche scientifique qui fonctionne comme ça. Heureusement, on va pas mettre la vie des gens en danger. Donc, heureusement que ça marche comme ça. Mais oui, la question des effets secondaires. Après, elle se pose vraiment pendant la recherche. La preuve qu'on prend en compte ce genre d'effets secondaires, c'est que les recherches ont été arrêtées. Donc là-dessus, les anti-vaccins, finalement, devraient se réjouir.
Mais Sophie Mazet, le fait qu'on parle là en ce moment des anti-vaccins en dit long quand même sur la société d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais parlé des anti-vaccins, non ?
Non, on en parle. Alors après, il y a toujours la question de est-ce qu'en parler, c'est pas leur donner de la visibilité aussi ? Le problème, c'est qu'ils sont là. Donc,
oui, bien sûr.
Là, je sais qu'après l'émission, ils vont peut-être m'écrire. Ils m'écrivent toujours de toute
façon.
Mais
vous avez des lecteurs fidèles.
C'est ça, oui. Ils vont encore m'envoyer des notices de vaccins. Donc, moi, mon parti pris, ça a été d'en parler. Parce que les gens vont toujours arriver avec des questions et que moi, en tant que prof, je suis confrontée à des gens, à des élèves qui arrivent et qui posent leurs questions. Alors, c'est très bien, justement, qu'ils les posent leurs questions. Mais quand on n'est pas élève, on va pas forcément la poser, la question.
Voilà. Oui, c'est plutôt bon signe que les élèves posent des questions.
C'est très bon signe. Mais du coup, comme je vois qu'ils les posent et que ce sont ces questions-là qu'ils posent, je me dis, il faut tenter d'apporter une réponse.
Alors, il y a d'autres mots sensibles comme le multiculturalisme.
Énorme source de contresens,
oui,
le multiculturalisme.
On y met ce qu'on veut, en fait.
Tout à fait. Alors, compris dans le dictionnaire, alors je veux pas tout à fait fâcher le...
Oui, vous faites un petit... Vous égratignez le petit Robert.
Je veux pas, j'aime beaucoup le petit Robert, je suis une grande fan, mais il me semble
l'idée que le multiculturalisme, c'est la coexistence de plusieurs cultures dans un même pays.
Voilà, alors que
une définition minima. Hein.
Oui, ouais. C'est vraiment très très minimaliste comme définition, puis surtout ça prend pas en compte les problèmes que pose ce terme, c'est-à-dire que le multiculturalisme, c'est avant tout une politique qui a commencé au Canada, si je me trompe pas. Et c'est pas du tout la même chose que la pluralité des cultures, en fait. Après, confondre multiculturalisme et pluralité des cultures, c'est ce que veulent nous faire les racistes, en fait, les xénophobes. Ils sont très contents qu'on confonde, en fait, de tout mettre sur le dos de ce qu'ils appellent le multiculturalisme, qui en réalité est la pluralité des cultures. Et c'est pas la même chose. Le multiculturalisme, c'est une idéologie, une politique qui, au Canada, a donné ce qu'on avait appelé les accommodements raisonnables, notamment pour la laïcité. Donc, je pense, par exemple, je parle dans mon livre, un jeune garçon qui était de religion sikh, les sikhs, en fait, pour certains, viennent avec un poignard, en fait, qui est un objet symbolique, qui s'appelle le kirpan, pour eux. Ils sont obligés de le porter, en fait. Et ce jeune homme avait obtenu l'autorisation de porter son poignard à l'école, au collège, et en théorie, voilà, dans la religion, on est censé ne pas s'en servir du tout, ça n'est jamais utilisé comme une arme, mais il n'avait pas dû avoir le mode d'emploi parce qu'il s'en est servi comme une arme. Donc là, on a un vrai problème d'inégalité des droits, parce qu'on va dire finalement à qui on va donner le droit d'aller au collège avec une arme. Donc, et ça, c'est des vraies questions sur le multiculturalisme. C'est la question des tribunaux religieux aussi en Grande-Bretagne, dont les décisions ne passent pas au-dessus des vrais tribunaux, hein, mais qui néanmoins sont consultés par des personnes des communautés, parce que c'est en théorie moins cher et plus rapide, et qu'il y a une pression de la communauté parfois pour avoir recours, par exemple, à un tribunal islamique, et qui pose des vraies questions en matière de respect des droits des femmes et de domination des femmes notamment.
En tout cas, ce mot multiculturalisme est un des mots les plus sensibles.
Là, c'est un piège. J'adore ce mot parce que justement, il dit plein de choses. On dit beaucoup de choses sans le savoir quand on utilise ce mot. Et donc, je voulais savoir si une personne qui dit « moi, je suis multiculturaliste », qu'est-ce qu'elle dit en fait ? Et je voulais donner les moyens aux personnes qui veulent utiliser ce mot ou qui ne veulent pas l'utiliser de savoir pourquoi ils l'utilisent ou pas.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Et nous lançons cette semaine un appel à nos auditrices. Nous avons remarqué qu'elles ne nous écrivent pas ou très peu par rapport à nos amis auditeurs. Alors, mesdames, mesdemoiselles, n'hésitez pas vous aussi à réagir à l'actualité, à la radio aussi, et pas seulement sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire ici et ailleurs à Une Semaine d'Actualité et à d'autres émissions également. Nous attendons vos messages donc. En attendant, je salue deux auditrices, justement, Ma à Douala et Félicia à Ouaga. Bonjour également à Ali à Moscou, Césaire à Conakry, Azou à Ouagadougou, Abdallah à N'Djamena, Amadi à Nouakchott. Un salut également à Fousséni à Lomé et à Latifou à Parakou.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique maintenant, en commençant par les inondations qui ont dévasté une partie du continent après des pluies diluviennes. Parmi les pays les plus touchés, le Soudan, où l'état d'urgence a d'ailleurs été décrété, le Ghana, le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Burkina Faso également. Reportage à Ouagadougou, signé Yaya Boudani.
Pour atteindre son domicile, Salif Gebré doit traverser la flaque d'eau qui lui monte jusqu'au genou. Il a entrepris de construire un petit mur pour éviter que les eaux de pluie occupent sa terrasse.
La maison vient de nous tailler dedans, tout de suite l'eau là rentre dedans. C'est pourquoi on est en train d'aménager un peu pour modéliser la situation.
J'ai le mur qui est tombé, le voisin là.
Dans un autre quartier, le vieux Seydou Ouedraogo se demande où et comment sa famille passera les prochaines nuits. La maison familiale n'a pas résisté aux pluies diluviennes.
Le matin, comme j'avais dit, on a attendu, bim, tout est cassé. Je ne sais même pas comment faire ça encore. Je n'ai rien même comme chien là même. C'est la maison familiale, tout le monde doit ici. C'est la pluie qui a fait tout.
Hassan Tiagbe et ses amis se sont mobilisés pour apporter un soutien aux familles. Mais ils se disent impuissants face à l'ampleur des dégâts.
On a eu trop de dégâts dans le quartier. Pour dormir, ce serait juste un problème pour eux. Dans des quartiers comme Tangé, une femme enceinte même qui a perdu la vie, juste devant sa porte.
Même s'ils reconnaissent leur part de responsabilité dans cette situation, certains habitants de Ouagadougou dénoncent l'absence de canalisation.
C'est du calvaire, on vit du calvaire. Hein? Les maires là, ne s'occupent pas de nous. Et regarde, où est les caribots là? Les caribots là sont où ici? Mais l'eau là va couler comment? Vous êtes des pirogues maintenant pour se dans la ville. Hein? Cette année, c'est le plus pire des années qu'on vit.
Le maire interpelle les populations sur les comportements imprudents et à éviter les zones à risque.
Jeudi, se sont ouvertes à Bamako des journées de concertation nationale sur la transition au Mali. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Environ 500 participants sont réunis dans plusieurs salles du Centre international de conférences de Bamako. Alors sur les tables, un projet de feuille de route à amender avant adoption. Les sujets sont nombreux, sécurité, la transition, les réformes. Notre correspondant à Bamako, Serge Daniel, a assisté à la première journée de discussion.
Il est sexagénaire, il vient de la localité de Onsongo dans le Nord. Sans problème, le problème des populations civiles du Nord, dit-il, le sentiment d'être abandonné. Il le dit avec ces mots.
Depuis 2018, on n'existe pas, hein. Nous nous confions à Dieu. Si le Mali n'existe pas.
Dans un autre groupe de travail, un intervenant prend la parole pour fixer, selon lui, ce que doit être la priorité dans le projet de feuille de route de la transition.
La priorité, une, c'est le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Deuxièmement, la promotion de la bonne gouvernance. Voilà les deux priorités essentielles pour la transition.
D'autres participants dénoncent la crise de confiance entre gouvernés et dirigeants. Une femme de caractère prend à son tour la parole, se présente et s'exprime.
C'est Madame So qui a la parole au Mali. La durée de la transition et les différents organes de la transition.
C'est là l'un des véritables sujets des journées de concertation. Le sujet divise déjà profondément le mouvement du 5 juin qui a contribué à la chute de l'ancien président Ibeka. Parmi les plusieurs centaines de participants à la rencontre, il y a ceux qui souhaitent un civil à la tête de la transition, d'autres un militaire. Le débat n'est pas encore terminé.
Partons pour la Guinée maintenant, Sophie Mazet, avec l'élection présidentielle. Nous vous parlions d'Alpha Condé samedi dernier dans cette émission. Il nous faut parler cette semaine de la candidature de l'opposant historique, Seydou d'Alain Diallo à Conakry, Moctarba.
En acceptant la proposition de son parti d'être candidat à l'élection présidentielle, le principal opposant d'Alpha Condé ne manque pas de grief contre les organes en charge des élections en Guinée. Seydou d'Alain Diallo.
Avec un fichier électoral tronqué et taillé sur mesure, une CENI et une cour constitutionnelle totalement inféodée à Alpha Condé, la tâche ne sera pas facile. Ce n'est pas pour autant qu'il faut céder aux forces de l'abandon. La Guinée est aujourd'hui dans une situation de non-droit. Il faut obligatoirement corriger cela par un retour à un ordre constitutionnel normal. Nous le ferons ensemble. C'est donc dans la foi de cet exaltant projet commun que j'accepte votre décision de m'inscrire comme candidat de l'UFDG à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020.
La décision a été difficile à prendre, mais il le fallait et pour cause. Kalemou Douyanzane, membre du bureau politique du parti.
Au niveau de la direction nationale, les débats étaient houleux, les positions étaient divergentes. Chaque choix a ses avantages et ses inconvénients. Mais on s'est rendu compte que si on croise les bras, on signe la défaite, on n'aura pas honoré la mémoire de nos victimes. Donc nous sommes obligés d'aller nous battre dans les urnes sans renoncer au combat de rue avec le FNDC.
Duel RPG-UFDG pour Alpha Condé, jamais 203, et pour Seydou d'Alain Diallo, il faut enfin vaincre le signe indien.
Sept jours en Afrique.
Elles sont cinq femmes qui toutes ont eu pour destin commun d'être arrachées à leur mère congolaise par l'administration coloniale belge. En ce 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, elles ont décidé de porter devant les tribunaux une citation à l'encontre de l'État belge pour crimes contre l'humanité. À l'instar des 12 000 autres métis congolais, elles ont été placées dans des institutions religieuses et contrairement à beaucoup d'autres, elles n'ont pas été emmenées de force en Belgique à l'indépendance. Elles sont donc restées au Congo, abandonnées de tous, parce que l'État avait décidé de les soustraire à leur famille. Pierre Benazé à Bruxelles, mardi.
Ce n'est qu'à la retraite que Monique Bitou a commencé à parler de sa jeunesse à ses enfants, tant son passé lui pesait. L'État belge estimait que les métis ne devaient pas être élevés par leurs mères africaines, et l'administration coloniale les a arrachés à leur famille pour les confier à des missions religieuses.
Moi, je suis arrivée là-bas, j'avais 4 ans. On nous a toujours dit que votre père, c'est l'État. Mon père, c'est papa l'État. Et chez les sœurs, on était considérés comme les enfants de péché. On a été détruits moralement et physiquement. Il faut que papa l'État, qui était notre papa, reconnaisse ça. Un simple pardon ne suffit pas.
En 2019, le Premier ministre a demandé pardon à tous les métis au nom de la Belgique. Mais selon leur avocate, il fallait cette citation de l'État en justice pour crime contre l'humanité, pour extirper l'héritage colonial. Maître Michel Hirsch.
Nous demandons en réalité que justice soit rendue à travers une réflexion et à travers une loi qui à la fois nomme les crimes commis et crée un fonds d'indemnisation pour les victimes et leurs descendants.
La procédure judiciaire devrait durer au minimum 1 an. D'ici là, la commission chargée de faire la lumière sur le passé colonial de la Belgique aura probablement fait avancer la cause des métis.
Vous écoutez RFI, vous avez raison, et singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes toujours en compagnie de Sophie Mazet, évidemment dans les mots dont vous essayez de trouver une définition précise, il y a le mot décolonial, qui est un des mots d'actualité aujourd'hui.
C'est oui, c'est
dans un débat intellectuel.
C'est pas mal dans l'actualité, et c'est un mot intéressant parce que donc on parle de pensée décoloniale. Qu'est-ce que ça présuppose en fait d'utiliser ce terme ? Est-ce que ça présuppose qu'on est encore dans un système colonialiste ou est-ce qu'il y a l'existence d'une pensée de type colonial, ce qui n'est pas la même chose en fait ? Est-ce que cette pensée prédomine ? Est-ce qu'il y a une institution qui porte cette pensée ? Donc moi je me suis posé toutes ces questions-là pour voir si on avait raison de vouloir être dans la pensée décoloniale, notamment lorsque j'ai assisté à un stage syndical pour enseignants en fait, organisé par Sud Éducation. C'était très intéressant parce que c'était la deuxième édition de ce stage qui avait fait les gros titres parce que il y avait eu des ateliers en non mixité raciale en fait, donc c'était pour les personnes racisées comme les personnes s'appellent et interdit aux blancs. Donc j'ai voulu y aller quand j'ai vu que ça avait été réédité, je me suis dit chouette, on va aller voir de quoi il retourne. Et donc il y avait divers ateliers, effectivement il y avait des ateliers qui étaient interdits aux personnes non racisées, c'était ce qui était écrit, et puis il y avait un atelier qui s'intitulait décoloniser les manuels scolaires. Alors, je suis allée voir pour décoloniser les manuels scolaires, pour savoir s'ils étaient colonisés, en fait. Et l'idée, en fait, le principe de l'atelier était de compter les personnes racisées. Encore une fois, j'emploie ce mot, je le reprends pas forcément à mon compte, hein, c'est le mot qu'ils employaient dans ce stage. Il fallait compter les personnes racisées dans les manuels et dire s'ils étaient dans des positions de domination, de soumission, etc. Et donc là, ça posait vraiment problème, parce que à un moment donné, moi, j'avais pris un manuel d'anglais, puisque c'est ma discipline, et je tombe sur deux jeunes filles au teint mat, et vraiment, leur origine était indéfinissable. Et en fait, je demande à la personne, mais est-ce qu'elles sont racisées, ces personnes, ou pas ? Et la jeune dame qui organisait l'atelier me dit, c'est à toi de dire. Alors moi, en tant que personne blanche, en fait, je devais dire si l'autre personne était racisée ou pas. Donc, c'était très compliqué.
La définition se fait dans le regard de l'autre.
Alors. Ben, c'est ça. Mais alors, du coup, ça montre les limites de cette définition de la personne racisée. Puisque, en fait, on va me dire, mais est-ce que toi, tu racises une personne ? Est-ce que toi, tu lui assignes une race ? J'aimerais bien pas.
Une personne racisée, c'est une personne à qui on assigne une race, précisément.
Voilà. C'est, en fait, le verbe raciser et le processus de racisation. Alors, c'est Colette Guillaumin qui a inventé ce terme, racisation. Moi, je le trouve très intéressant. Mais après, il y a un glissement qui se fait entre le verbe raciser et la racisation et le fait de se définir comme une personne racisée.
C'est ça, on racise et on est racisé.
On est racisé, voilà. Et c'est là qu'il y a un problème, en fait, avec ce terme-là. Et du coup, ce stage-là, en fait, dans ce stage-là, c'est très intéressant parce que quasiment tous les intervenants partaient du principe que il fallait décoloniser parce que on est encore dans un système qui est finalement l'héritage du colonialisme et que finalement peu de choses ont changé. Donc, je voulais savoir si c'était vraiment le cas et si, par exemple, nos élèves peuvent et doivent se considérer comme décolonisés, ce qui, à mon sens, est quand même assez grave, en fait.
Est-ce que vos élèves ont conscience de ce débat ? Ils se sentent concernés ?
Ils en ont conscience pour certains, parce que je pense qu'il y a des questions avec lesquelles la France doit faire la paix sur son passé colonial, donc il y a des vraies, vraies questions qui se soulèvent là-dessus. Et puis après, il y a une réflexion qui est à mettre en place. Donc les élèves, oui, ils en ont conscience. Ils n'ont pas forcément conscience des enjeux. Je suis pas sûre qu'ils utilisent le terme pensée décoloniale, mais ils ont conscience du débat en tout cas.
Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce débat sur le postcolonial, sur la race, etc., vient aussi beaucoup des États-Unis, des universités américaines.
Oui, bien sûr, sur la question
vous qui êtes prof d'anglais, vous êtes dans cette culture là.
Un petit peu. C'est aussi pour ça que ça m'a donné envie d'explorer ces thèmes-là, hein, la question de raciser. Est-ce que finalement le fait d'utiliser le terme une personne racisée, donc c'est-à-dire c'est son essence finalement, est-ce que ça reproduit pas la race en fait, tout en disant non, la race, les personnes qui utilisent ce terme, le terme de racisation, vont dire non, pas du tout, nous considérons que la race c'est une construction sociale. Mais moi je suis pas sûre que ça revienne à ça finalement quand on utilise le terme une personne racisée. Est-ce qu'on est le racisé de tout le monde d'ailleurs ? Est-ce qu'une personne qui est noire par exemple au Maghreb où vous avez des vrais phénomènes de racisme anti-noir, est-ce que les personnes qui du coup sont racistes envers ces personnes-là ne deviennent plus racisées alors qu'elles le seraient en France ? Donc, la racisation passe les frontières ? Je ne sais pas, en fait.
De la nécessité de bien nommer les choses, voilà. Comme disait un certain Camus, c'est difficile. Hein,
c'est très, difficile. Très difficile.
Et c'est parfois courageux de le faire.
J'ai essayé de le faire. Alors, souvent, il y a des définitions sur lesquelles je conclue sur une question, en fait, en me disant, on ne sait pas, on ne peut pas trancher sur ce débat-là, mais au moins, il faut avoir conscience des enjeux et de tout ce que utiliser tel mot peut impliquer, avec qui on s'allie inconsciemment quand on utilise tel mot. Et ça, c'est très, très compliqué. Il faut faire attention, quoi, pour pas charrier des choses un peu nauséabondes, quand même.
Et ne pas considérer que les mots sont des évidences. Les mots sont des constructions aussi.
Sont des constructions, surtout des constructions dans le temps, qui évoluent géographiquement, temporellement, etc.
Merci, Sophie Mazet.
Merci.
À votre livre s'intitule Autodéfense intellectuelle, lexique pour les esprits critiques. C'est Autodéfense intellectuelle, le retour. Parce qu'il y avait donc un premier tome, Autodéfense intellectuelle. actuelle, il est publié chez Robert Laffont. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain, dimanche, à 17h10, heure de Paris. Nous parlerons cette fois d'une page d'histoire de la psychanalyse et des relations entre Freud et un de ses héritiers spirituels, Sandor Ferenczi. Nous serons en compagnie de Benoît Peters, qui vient de leur consacrer un livre précis et riche, vous le constaterez, demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.